Existe-t-il vacances plus profondes que de prendre congé de soi-même ? C'est une phrase d'Amélie Nothomb qui finalement ne donne que peu de solutions, car oui, on est tous bien d'accord avec l'idée qu'on est la personne avec qui l'on passe le plus de temps, et donc par extension, la personne qui nous irrite le plus avec ses petites manies, là, toujours à faire les mêmes trucs idiots. Alors comment prendre congé de soi-même ? Amélie Nothomb n'est pas bien claire. Moi, j'ai une proposition qui consiste à s'intéresser très très fort à quelque chose ou d'autre. Et je vais nous donner des billes pour ça. Bienvenue dans le mag de l'été, où l'on fait une mini-pause dans l'actualité estivale pour mettre nos gros pieds nus dans de la culture. Elle est scientifique aujourd'hui, puisque je suis joie de recevoir Marion Montaigne, spécialiste des sujets ardus, dans lesquels on peut, par exemple, s'oublier. Bonsoir Marion Montaigne.
Bonsoir.
Vous êtes la mère, ou l'alter ego qui suis-je pour le dire, de professeur moustache,
et voilà,
qui nous apprend et vulgarise des choses très scientifiques depuis des années dans Tu mourras moins bête, une BD devenue dessin animé sur Arte. C'est la 4e saison. Vous êtes aussi, pour vous présenter un peu plus, allée dans la combi de Thomas Pesquet,
oui,
parmi d'autres aventures, menée avec une seule boussole, votre curiosité et votre envie de comprendre. Moi, j'ai aussi envie de comprendre avec vous, par exemple, de comprendre ces fourmis qui sont devenues des zombies à cause d'un champignon. Alors en fin d'émission, on sera avec la directrice de recherche au CNRS, reine du blob des fourmis et des champignons, Audrey Dussoutour. Et puis, comme tous les soirs depuis au moins une semaine, à 18h30, c'est le panorama culture. Ce soir, on fait la tournée des festivals. Alors sortez les gobelets, éteignez-moi cet écran, prenez un radis, je m'occupe du reste. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Marie Misset.
Marion Montaigne.
Oui.
Vous êtes animée de ce qu'on pourrait appeler des passions, dans certains cas des lubies,
des obsessions.
Le quotidien de Thomas Pesquet, l'hygiène pas douteuse des insectes poilus et autres poux. On va parler de pas mal de vos passions ce soir, mais avant, j'aimerais savoir où vous mène votre curiosité en ce moment. Sur quel sujet ardu avez-vous posé votre nez et la moustache, peut-être du professeur moustache ?
J'ai reçu un cours d'un cardiologue et d'un pneumologue il y a quelques mois qui m'ont fait réviser tout le massage cardiaque. Et donc, j'explique ça sur Instagram. Pourquoi il faut faire très vite un massage cardiaque. Donc on explique comment marche le cœur, pourquoi le cerveau déteste manquer d'oxygène, donc il faut très vite masser. Et aussi on va parler des machines maintenant qu'ils utilisent aussi pour externaliser même toute votre respiration. Donc
on pourra vivre avec son poumon à l'extérieur.
Non, c'est vraiment si. Ah non, faut pas, parce que c'est vraiment un truc de secours. Et en plus, faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'il fait circuler le sang dans l'autre sens, le sens inverse de la normale.
De l'aiguille d'une montre.
Donc pas trop. Okay. C'est vraiment si ça va pas.
On va aller sur l'Instagram de Marion Montaigne. Je pense que c'est des meilleures informations que celles que je vous donne. Alors avant de se lancer dans votre vie, votre œuvre et les poils des insectes, j'ai envie de savoir quel genre de personne vous êtes en été. C'est notre test de personnalité. On est un Mac de l'été, on se refait pas. C'est l'interview haute tension. Marion Montaigne, l'été est-elle une saison que vous appréciez ou que vous fuyez ?
Je l'appréciais dans ma jeunesse. J'allais à la plage, j'allais au Club Mickey.
Vous alliez au Club Mickey ?
Ouais,
je crois qu'il fête un anniversaire cette année.
Ah bon ?
Oui. Bah,
j'étais championne olympique, Club Mickey 87, plage de la Birochère, attention.
C'est où ?
C'est à Pornic.
Eh bien. Et
voilà, vous savez tout. Plus tard, plus vieille, quand j'ai commencé à travailler et surtout en indépendant, c'est à moi de décider quand je prends mes vacances et j'ai un peu plus de mal. Et maintenant, j'ai peur de la canicule. Donc, l'été, la
c'est
continuation
en...
de l'année,
c'est de mal en pis. C'est allé de mal en pis, c'est ça.
Et ce serait plus campagne, rando. Mais...
Eh bien, et s'éloigner du soleil.
Voilà.
Quelle est votre position quant au camping ? Votre positionnement.
Bon, j'aime bien. Enfin, j'en ai fait enfant et j'en ai fait en itinérant aux États-Unis et c'était chouette.
Alors là, vous avez déjà répondu à cette question, mais peut-être vous pouvez nous donner d'autres informations que le Club Mickey Camping. À quoi ressemblaient vos étés quand vous étiez enfant ?
Eh ben, c'était tous les ans à la plage à Pornic.
À Pornic.
Et au Club Mickey où j'ai appris à nager. Voilà. Et
c'était des grands-parents.
On se retrouvait. Oui, mes grands-parents vivaient là, ma grand-mère était née là, et on retrouvait. J'étais dans un groupe de jeunes de la bande à Doudou. Voilà, Doudou, bisous.
C'était le chef de la bande.
Ouais, c'était un peu notre chef. C'était.
Il s'appelait Édouard, en fait.
Non, il s'appelait Clément.
D'accord.
Clément Demeaux. Bisous.
Bisous, Clément Demeaux. Quel est votre insecte préféré de l'été, Marie-Le Pen?
C'est pas le moustique, ça c'est sûr. J'essaye de faire la paix avec les araignées, mais c'est pas un insecte. L'abeille, le bourdon, ça c'est sympa.
Moi j'ai découvert que tout le monde ne connaissait pas les aoûtas, alors que pour moi, c'est vraiment des compagnons de l'été, les aoûtas.
Ah oui,
ceux qui vous piquent au niveau des élastiques, tout ce qui est élastique.
Ouais, et il y a un super balado, un podcast québécois du pharmacien à écouter, tout sur la tique.
Sur les aoûtas
sur
les tiques, très bien.
Ça, ouais.
Alors on a envie d'en savoir encore plus, Marion Montaigne, on va vous replonger dans l'été de vos 20 ans. On vous a préparé une petite Madeleine de Proust sonore, on est en l'an 2000. Post-non-bug de l'an 2000, c'est la première tournée mondiale de Britney Spears. Le monde était encore jeune.
Dans tous les films d'horreur, il y a toujours un téléphone qui sonne.
Allô ?
Il y a toujours une victime qui hurle.
La mobilisation autour du film de Virginie Despentes, le Conseil d'État a jugé que le film devait être classé X au nom de son caractère pornographique et au nom des incitations à la violence qu'il contenait.
Plus Nelly Furtado que Manu Chao, j'ai l'impression, Marie-Montaigne, en vous voyant à l'écoute de ces sons. Ça vous évoque des choses? Il y a des choses qui sont remontées. J'ai vu à l'évocation du film Baise-moi de Virginie Despentes.
J'avais oublié que c'était qu'il y avait eu un pataquès là-dessus. Complètement oublié. J'ai dû passer à côté. Je vais regarder Leonardo DiCaprio plutôt.
Plutôt à 20 ans.
Ouais.
C'est plutôt ça les souvenirs de.
Oui, j'ai eu un flash de Leonardo dans Basketball Diaries. Donc,
Ah oui, c'est ce qui s'est passé pendant qu'on a passé ces sons.
J'ai passé le nouvel an 2000 à regarder Leonardo DiCaprio. Je vous raconte tout.
Vous étiez finalement lancé dans des études artistiques aux ateliers de Sèvres, alors que plus tôt, on vous avait dit que tout était bouché dans le secteur. Donc, c'était peut-être une période un peu heureuse, un peu chouette.
Les études, ouais, parce que je faisais ce que j'aimais. Mais après, j'avais l'impression que tout était bouché. Donc, l'un dans l'autre, tant qu'à être bouché, autant être bouché dans un truc qui nous plaît. Donc, c'était plutôt surprenant de passer du lycée où c'était difficile à des trucs qui étaient fun, enfin des
dans
lesquels
vous amusiez vraiment, quoi.
C'était bizarre.
Avant de parler de votre curiosité sans limite pour le vivant et parfois le mort, et de la quatrième saison de Tu mourras moins bête, on reste en l'an 2000. Vous avez dit une fois en interview que vous aimez Beyoncé. On ne l'oubliera jamais, Marie-Montaigne. C'est donc Beyoncé pré-carrière solo qu'on écoute, les Destiny's Child sur France Inter avec Say My Name. Say my name, say my name. Baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you, say baby, I love you. If you ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Better say my name. The other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. The word is yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. If I'm the girl that you claim, why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you say that I am assuming things. Something's going down, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why you're acting strange. Nobody's holding you back from me. Someone else, just this question, why do you feel you gotta lie, getting caught up in your game when you cannot say my name?
Et ce n'est pas celle-là, ça c'est sûr.
Mais, tu parles ?
Oui, et tu noteras que je te comprends aussi.
Moi aussi je te comprends ?
Ça, ce n'est pas si sûr.
Attends, petit tonnerre !
Très jolie ta plume, elle te va très bien.
Marion Montaigne, j'imagine que vous reconnaissez Petit Tonnerre.
Oui, à mort, alors me lancez pas sur Petit Tonnerre, je peux faire une thèse de 4 heures sur ce poney merveilleux qui... J'ai une théorie là-dessus, je pense que je me projetais plus sur le poney que sur Yakari.
Ok, on va y passer 2 secondes et demie. Avant de parler de Tu mourras moins bête, l'adaptation de votre BD que vous faites vous-même, on va parler 2 secondes de cette projection sur Petit Tonnerre. Donc Petit Tonnerre, c'est le poney de Yakari. C'est un poney, moi si je me rappelle bien, assez sauvage.
Assez sauvage, mais très intelligent.
Très intelligent.
Et qui prend son indépendance. Oh là là, non mais lancez pas, on a combien de temps? Ah non, on n'a pas le temps. J'ai toute une psychanalyse à vous faire.
De vous, Marion Montaigne, en tant que petit tonnerre. Et qui est votre Yakari, pardon de vous demander.
Ah, qui est mon compagnon qui me parle et que je conduis sur mon dos.
Où vous
comme
avez.
Un animal soumis.
Vous l'avez.
Non, non,
c'est. Qui vous a domestiqué.
Non, non, mais. Je crois que c'est quand on est enfant, c'est un peu de sérieux. Quand on est enfant, je pense que c'est vraiment le symbole de la liberté. Et il y a un épisode très important. Attention, non, ça, tant pis, je suis lancée. Un album qui n'est consacré qu'à Petit Tonnerre, où il se casse.
Il s'en va, et il
vit des aventures. Et moi, c'était mon album préféré. Je pense que c'est parce que c'était un peu l'enfant qui part, qui s'émancipe. En plus, il risque sa vie, il se blesse et tout. Et il revient et il dit à Yakari, c'est mon secret. Tu sauras rien. Et là, bam!
C'est magnifique. Il lui dit, je vais garder ce jardin secret. Ça, ça m'appartient.
Voilà.
Ça m'appartient. Malgré notre relation.
Oui, ça, je le garde pour moi.
J'avais pas prévu de passer autant de temps sur un petit tonnerre, mais je pense que c'était important.
C'est très fort.
Dans la saison 4 de Tu mourras moins bête, donc, qui est disponible sur Arte, le professeur Moustache ne cesse de nous apprendre des trucs. Ça va du coronavirus au gigantisme, au tardigrade, en passant par quelques questions soulevées par la croissance des intelligences artificielles. Il y a à boire et à manger. Comment vous choisissez, Marion Montaigne, l'ordre? Qu'est-ce que vous allez choisir entre le tardigrade et la fourmi zombie? Et mettre en milieu des deux des trucs sur les biais cognitifs.
En fait, c'est oui, ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est sur plusieurs années. Non, mais en fait, je lis pas mal de choses, je picore, et en fait, Internet étant un gouffre, souvent, je recoupe des informations avec aussi les lectures que je lis, et ça peut aller très loin. Par exemple, j'ai fait un épisode sur pourquoi les insectes sont poilus. En fait, ils ont énormément de poils, alors que c'est pas terrible. Ils se ramassent toutes les poussière pour le vol, c'est pas très adapté. Et en fait, ça les aide vachement à se laver. Et quand je lis ça, moi, c'est incroyable. Faut que je fasse une BD là-dessus. Et en plus, de fil en aiguille, je découvre d'autres thèses, dont par exemple des chercheurs qui ont étudié comment marchent les cils. Moi, je pensais que c'était une sorte de grillage pour les poussières. Mais pas du tout.
C'est
de l'aérodynamisme pour dévier l'air et pour que la poussière soit soulevée au-dessus de votre œil.
Et donc, ce que vous faites, c'est que vous êtes à la base sur les poils des insectes. Comment on entre
non,
sur
non,
les poils
je ne sais
des
pas.
Insectes?
Un jour, j'ai vu un article sur Roberto, je ne sais plus, a fait une étude qui dit qu'un chat doit se lécher l'équivalent en surface de poils d'une table de ping-pong. C'est génial. Et la loutre, c'est un terrain de hockey. Et la petite abeille, qui est très poilue, elle, c'est un toast, en fait. Et c'est beaucoup de temps, ça prend beaucoup
pour
d'énergie.
Une abeille, voilà. On imagine que lécher un toast en entier.
Et moi, je trouve ça génial qu'un mec soit payé pour se dire, je vais compter des poils, je vais calculer la surface, puis je vais faire des expériences jusqu'à... Mais on peut aller très loin comme ça, à ce moment-là.
Et c'est ce que vous faites. Et ce qui est assez fascinant, c'est que vous arrivez à réduire ça en 3 minutes, parce que les épisodes, chaque épisode dort à peu près 3 minutes. Ouais. 3 minutes 30, ça vous rend pas dingue les moments où toute cette recherche accumulée, parce que ce que vous êtes en train de nous faire là, c'est que vous me dites ça et ça me fait penser au cils qui me fait penser à ça et j'ai envie de vous raconter ça et que j'ai envie de vous raconter ça. Comment vous faites pour encapsuler ça en 3 minutes?
Bah, c'est le drame. Hein. En BD, on a du temps, mais en 3 minutes, oui. En plus, c'est frustrant parce que faut faire très attention. En science, c'est important les mots comme on pourrait faire ça, on pense que, on ne sait pas encore. Et quand vous devez retirer plusieurs secondes, vous n'avez pas envie de retirer ces mots très importants en science. Faut trouver la substantifique moelle. Moi, ça me... J'essaie de trouver le l'axe. Après, c'est plutôt les chercheurs qui doivent se rouler par terre en se disant comment elle a résumé ça en 3 minutes. Mon étude qui m'a pris 25 ans, c'est affreux.
Il y a un épisode, par exemple, où vous expliquez qu'il y a beaucoup de recherches autour de la conscience possible, des intelligences artificielles ou non. Et on en arrive à une étude menée par des chercheurs japonais qui essayent de mettre de la peau humaine sur des robots munis d'intelligence artificielle. Et j'ai vraiment fait quoi ?
Oui, il y a une photo. Dommage, j'ai pas pu la mettre. Si je l'ai mis dans le scénario pour les storyboarders, c'est dégueulasse. C'est un doigt articulé avec de la peau humaine qu'ils ont réussi à cultiver.
L'idée étant que l'intelligence artificielle a accès aux sensations du toucher.
Bah oui, peut-être que plus tard, elle pourra, un, se cicatriser elle-même, et deux, peut-être, la question, c'est est-ce qu'on peut être conscient sans vivre des choses? Nous, on a un enfant, il comprend très vite que le petit poussé risque sa vie s'il est perdu en forêt parce qu'il a peur de mourir, il a peur d'avoir mal, il est angoissé. Mais un robot, il n'a pas trop ces choses
accès à ça.
Très biologiques, quoi. Donc, c'est des questions
qu'on se pose. On peut avoir de la peau et toucher des choses, on va peut-être avancer un petit peu. Parmi les choses les plus marrantes et les choses qui vous ont toujours fasciné, il y a quand même les tout petits trucs, les minuscules trucs, comme les tardigrades qui font 1 millimètre, je crois. C'est un panarthropode, le tardigrade, qui a une tête de sac d'aspirateur. Par exemple, le tardigrade, qu'est-ce qui vous fascine ?
Mais en fait, ça fait longtemps que les chercheurs étudient le tardigrade. C'est génial, c'est un animal, on ne sait pas trop d'où il vient, il a sa propre classification et surtout on ne comprend pas la nature ne faisant pas les choses vraiment au hasard. Il ne comprend pas pourquoi il est aussi résistant. Il résiste à des radiations, il peut aller dans le vide spatial, il survit. Et en fait, on s'est demandé si c'est pas quasiment un animal qui est venu via des astéroïdes, etc. Parce que, comme par hasard, il a l'air d'être résistant à un impact, tout ce qui est un impact d'astéroïdes. Donc ça nous pose plein de questions, même sur l'origine des choses. Je ne dis pas que la vie extraterrestre, on ne sait pas trop, mais c'est fou qu'un animal aussi tout petit. En plus, il faut aller le voir, il marche comme un petit ourson.
Il faut toujours aller voir un tardigrade. Je pense que c'est important, si vous ne l'avez pas en tête, à quoi ressemble un tardigrade, c'est important à voir.
Oui, c'est important, comme le doigt avec deux robots avec la peau, vous pouvez chercher. Et puis, ils font plein d'études encore, c'est un peu une petite star chez les scientifiques, et c'est un peu un drôle de truc.
Et c'est minuscule. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de nous rappeler qu'on va mourir, moins bête, mais qu'on va mourir quand même à chaque épisode?
Mais moi, je crois que on me disait souvent. Alors je crois que l'expression c'est tu te coucheras moins bête quand j'avais appris un truc, tu... Et avec mon optimisme fracassant, je l'ai transformé, je sais pas, en tu mourras quand j'ai fait le blog et maintenant on le rajoute parce que oui, on reste en fait, comme j'aime beaucoup la biologie vous rappelle souvent que la vie
à
est
ça,
un peu trash
à la finitude
et que oui, c'est un peu ce qui nous attend, mais autant en rigoler.
Est-ce que ça fonctionne, le savoir face à l'anxiété? On va en reparler dans quelques instants, c'est le prochain thème du professeur Moustache. Mais d'abord, un petit panorama de la culture et on se fait un shoot de Yamé. Littéralement, le titre s'appelle Shoot. L'artiste qu'on aime fort à France Inter s'appelle Yamé.
Ne prends pas la tête. Je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nous deux, c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans l'arène.
entre le love et la haine. T'es comme toi, j'en fume ma paire de vue, mais est-ce que je finirai pas en perdre la vue? Oui, je me dis que c'est pour l'instant. Et comme est l'hyperactif, j'allume mes cordes, le chromie. Je voudrais chanter toute ma vie. Ma gueule, ça joue, 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 joue. Sa santé se fragilise, donc une dernière fois je me carbonise.
Extrait du premier album de Yamé qui s'appelle Ebem. Yamé était à l'Olympia pour la fête de la musique. Le concert est toujours disponible en podcast. On peut l'écouter sur l'appli France Inter Radio France.
Le mag de l'été. Marie Misset. Sur France Inter.
Tous les jours à 18h34 et 48 secondes exactement, le mag de l'été en mode vigie culturelle. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il des choses à l'ombre? Vous saurez presque tout dans le panorama.
Panneau.
Oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
Aujourd'hui, dans le panorama, on fait un tour des bien nommés festoches. On se réjouit d'un retour annoncé et on verse une petite larme.
Qui fait pas ça, voilà. But I feel like it's worse if I ever go back. From Gaza with love, baby, Palestine, I sin sad. وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas.
L'émotion était vive hier au festival Francofolie. On l'appelle Saint-Levant, il s'appelle Marwan Abdelhamid, il est né à Jérusalem, il a grandi à Gaza. Sur scène, il a dit « Ma mère, elle m'a dit, rien que d'exister pour toi, c'est résister ». Hier soir, il a retourné la grande scène de La Rochelle. Les Francofolies, c'est terminé, mais la régalade des festivals, ça continue partout en France. En Normandie, vous pouvez passer aux pluies de juillet dans le beau village de Tanu, applaudir par exemple les bombes de Tchégué sur Seine ou encore Médine. Si vous êtes au nord de la Corse, allez écouter des sons de toute la Méditerranée au Festivoce dans les hauteurs de Pigna, avec vue plongeante sur le maquis et sur la mer. Et puis laissez-moi zoomer pour vous sur deux grands plaisirs de l'été.
Aksa yukarı aksa vermem seni ellere ordu üstüme kalsa sürmeliyim amma.
Allez.
allez voir Altingun, le groupe originaire d'Amsterdam qui digue depuis des années dans les classiques du rock psychédélique turc. Ils seront au festival Fiesta 7, c'est le 30 juillet. Fiesta 7, merveilleux festival de 7, je vous le donne en mille, qui commence vendredi, qui se balade entre plages et médiathèques, entre concerts tout à fait gratuits et d'autres plus onéreux, et qui offre surtout des moments exceptionnels de musique au Théâtre de la Mer, au coucher du soleil.
Ah voilà, même si c'est une petite chambre, j'ai une adresse, c'est à moi, je revis.
En fait, ce qui me fait peur, c'est que tout le monde bouge tout le temps et qu'il n'y a jamais de pause pour se regarder rectiligne dans les lumières de l'autre.
Tu dors pas dehors, tu dors pas. Comment tu veux travailler? Je l'ai quand même fait 18 mois, mais à un moment tu tombes.
Tes paroles de sans-abri dans le spectacle Out de la compagnie Frotter Frapper. C'est recommandé par Le Monde et c'est à voir au festival Chalon dans la rue. Ça commence jeudi matin. Le principe est très simple. Vous marchez dans la rue et à tout moment, un spectacle vous tombe dessus. En parlant de trucs qui vous tombent dessus...
John Dorian a été le premier et le seul médecin qui se soit jamais soucié autant que moi des autres.
Merci Seigneur, c'était d'une beauté à couper le souffle. Vous sentez la figure paternelle.
I'm no Superman.
Breaking news, vous avez peut-être regardé les aventures de JD et Carla ou Elliot dans les années 2000. Scrubs, sitcom médical culte, évidemment plus drôle qu'Urgence ou Grey's Anatomy, qui révéla Zach Braff au grand public. Eh bien, Scrubs renaît, tel un phénix de ses cendres. Elles étaient pourtant bien froides, ces cendres, puisque la série s'est terminée il y a 15 ans. La chaîne ABC vient d'annoncer son grand retour. Mais le plus fou, c'est que c'est avec les acteurs originaux. Et comme tous les soirs, quelque chose de gratuit pour finir. Notez ça quelque part avant de vous en rappeler trop tard. Dans le cadre du festival Bel Été, Tiakola sera en concert gratuit à domicile, chez lui, à la Courneuve, le 26 juillet. Avec moi toujours ce soir à la table du Mac de l'été, c'est Marion Montaigne. Vous la connaissez, je vous la représente pour les BD « Tu mourras moins bête » qui sont devenus des dessins animés sur Arte. On arrive déjà à la 4e saison. Vous la connaissez aussi pour d'autres choses comme « Nos mondes perdus », formidable, hilarante BD sur la paléontologie où on en apprend aussi beaucoup sur vous, Marion Montaigne. Vous y décriviez notamment comment les recherches agissent sur vous comme un petit remède à l'anxiété. Comment ça fonctionne ce truc, apprendre des trucs pour avoir moins peur?
Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Peut-être que c'est pour un peu m'émerveiller. Je pense que c'est, je cherche un peu plutôt des infos qui étincelles, en fait, où je me dis, oh, waouh, c'est fou de savoir ça, ou c'est fou que ça se passe comme ça. Et j'ai envie de le retransmettre. Et puis que ça, j'aime bien ces moments, oui, waouh, quand on regarde le ciel, ou quand on regarde le passé, ou quand on se dit, j'ai été une amibe il y a très très longtemps. Enfin, ça, ces trucs-là, je pense que ça me fait relativiser vraiment mes problèmes d'URSSAF.
Ça m'a fait penser à un essai qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « Admirer, éloge d'un sentiment qui fait grandir » de Joëlle Zask, où elle dit que l'admiration, ça permet de sortir de soi et que ça démarre toujours par une surprise. Or, on a l'impression que vous, ça démarre toujours par un truc où vous dites « mais non, c'est pas
mais
vrai ».
Oui, moi, je vois ça plus un petit côté obsessionnel, c'est-à-dire je découvre un truc et je me dis « mais attends, mais comment il a fait ? Alors s'il a fait ça, mais comment il a trouvé des financements ?» Et donc, je me pose plein de questions et je tire le fil jusqu'au bout et je fais « mais alors, si dans le futur, on va dans l'espace, comment on va ?» Et je tire.
Vous partez en enquête, vraiment
Oui, c'est une petite enquête, mais comme quand je regarde un film, si je regarde une série, je fais « bah attends, mais qu'est-ce qu'il fait là ?»
Ça vous rend un peu pénible, non?
Hyper pénible. Alors oui, je parle comme une mamie devant la télé. Enfin, mais c'est pas possible.
Par exemple, Jurassic Park, ça n'aurait pas pu exister.
Non, ça, je me tais devant Jurassic Park. C'est comme à la messe. Je grand respect pour Jurassic Park. Mais c'est mignon parce que non, c'est mignon. En fait, ça parle de nous ces films-là parce que ça montre aussi comment on perçoit la nature. Et d'ailleurs, plus on voit les Jurassic Park, moins ils se comportent comme des animaux. C'est plus sur l'animalité. C'est devenu des machines, des mitraillettes sur pattes, quoi. Mais ça reflète comment on projette notre rapport à la nature, je trouve.
Je vous demande parce que moi, vraiment, quand vous faites, par exemple, dans la combi de Thomas Pesquet avec Thomas Pesquet, moi, les histoires d'espace, ça m'angoisse terriblement. Ouais. Ça me stresse l'idée que le truc soit infini et qu'on soit absolument minuscule. Bon, je trouve ça terrifiant. Vous aussi, OK. Mais vous, ça vous fait vaincre votre peur du voyage, par exemple. Vous êtes allé au Kazakhstan pour aller voir la base de lancement. Enfin, ça vous fait quand même vaincre des peurs.
Ah bah ça n'a pas été facile parce que j'ai dû me mettre au niveau de quelqu'un qui, pour qui c'est pas très compliqué et d'être moi je suis une autrice quoi et je me retrouve face à des ingénieurs spatiaux, on n'a pas vraiment le même cerveau. Donc il faut que je me mette à niveau et ça a été un peu douloureux. J'ai pas mal angoissé, stressé mais c'est vrai que c'était aussi assez passionnant. Je me suis bien marrée, j'ai appris plein de trucs. Mais je suis vraiment pas une aventurière.
Ça a pas l'air de marcher pour tout le monde, en tout cas, cette histoire de calmer son anxiété en apprenant des choses. On le comprend, par exemple, en voyant le niveau de notre culture scientifique en France aujourd'hui, dont les scientifiques se plaignent d'ailleurs beaucoup. C'est un truc auquel vous participez, vous, en tant que presque de manière engagée.
Ben en fait, à force de côtoyer des chercheurs, voir ce qu'ils font, en plus passer du temps pour comprendre ce qu'ils font, je me dis mais c'est pas possible. Enfin des fois, j'en connais qui passent à la télé ou à la radio et je me dis comment il va répondre à cette question en 20 secondes alors que j'ai pris 5 heures pour je crois comprendre. Et c'est très dur parce qu'il faut aller très vite. Or maintenant on est au 21e siècle, en science on a quand même du bagage. On aborde des choses vraiment complexes qui se résument pas en 30 secondes. Donc, il faudrait donner plus de temps peut-être des fois, il y a certains présentateurs, on voit qu'ils sont vraiment à la ramasse dès qu'on parle des insectes. Je me souviens d'une émission où le présentateur était carrément surpris qu'on parle de neurones, quoi. On revenait, ouais. Mm. Bon, oui, il y a un mépris quand même un peu du
un mépris carrément, ouais, ou c'est ouais, plutôt un mépris, une méconnaissance,
non, une méconnaissance,
général.
Mais tout ce qui est insectes, microbes et tout, ça fait partie de notre biologie et on sent qu'il y a l'humain et il y a le truc un peu pourri qui sort dans le fond de la mer, mais non, ils sont hyper importants.
Vous avez signé la pétition pour le Palais de la Découverte. Mmh. Vous savez qu'il menace de fermer. Il est déjà fermé depuis 4 ans.
Je devais y aller, oui.
Et quoi ?
Non, ben c'est triste. Enfin, je veux dire, là, j'ai vraiment peur en ce moment que la science soit, ben, comme aux États-Unis, très très menacée. Et en ce moment, ça y travaille gaiement pour dévaloriser la science, pour la saccager, et ça fout les jetons. Hein.
Votre méthode, en tout cas, vous, j'ai l'impression, c'est de transmettre cette envie de savoir en mettant en scène des choses qui vous font profondément rire, ou en tout cas qui font profondément marrer intérieurement, qui est un peu jubilatoire, les trucs qui vous font un peu jubiler, comme cette histoire de poils d'insectes dont on parlait tout à l'heure. Et j'ai aussi l'impression que c'est un bon moyen pour vous, tout ça, de créer du lien, de sortir de chez vous, de rencontrer des gens.
Ah oui, c'est encore mieux d'aller les voir comment ça se passe parce que en fait parce qu'il y a la science en tant que telle et il y a comment c'est fait, les questions que se sont posées, la méthode scientifique en fait. Donc si vous voulez savoir si une fourmi voit, qu'est-ce que vous mettez comme expérimentation pour le prouver, et tout ça c'est hyper intéressant, ça se pose des questions mais ça va très très loin.
Et pour ça vous allez voir Audrey Dussoutour.
Alors je l'ai pas, je la
rejoindre.
Connais. Ah ouais, je la connais, mais je voulais plusieurs fois la voir. On aurait dû se voir d'ailleurs.
Vous verrez par oreille interposée. Elle arrive dans quelques instants, elle nous rejoint. Donc c'est pas vraiment une rencontre puisque vous vous connaissez sans vous connaître, mais voilà, vous connaissez son travail. On va parler de champignons ensemble, de champignons et de zombies, de champignons comme dans Last of Us. Bref, je vous donne, c'est peut-être un petit peu cryptique, mais sachez qu'on est face à une grande spécialiste à la fois des fourmis, du blob et des champignons. Cette discussion au sommet, ce sera juste après ce titre qui va vous faire plaisir à vous qui êtes sur la route. Vous en avez besoin, c'est Saya Gray. Avec 10 ways to lose a crown.
Thank you.
C'était 10 façons de perdre une couronne, Saya Gray à l'instant sur France Inter.
France Inter, le mag de l'été.
Mag de l'été qui vient d'être augmenté d'une personne, en plus de Marion Montagné, de moi, Marion Montaigne, je vous le rappelle, on en est à la saison 4 de Tu mourras moins bête sur Arte et sur YouTube aussi, et on a été rejoint à distance par Audrey Dussutour. Bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Vous êtes une éminente biologiste, directrice de recherche au CNRS, grande spécialiste des fourmis, mais aussi des blobs. Vous avez découvert que les blobs pouvaient apprendre alors qu'ils n'ont pas de cerveau. Vous êtes aussi une spécialiste des champignons. Vous venez de publier Les champignons de l'apocalypse. Bref, vous savez plein de trucs. Vous deviez vous rencontrer avec Marion Montaigne. Vous ne l'avez pas encore fait. Je suis donc absolument ravie de créer cette rencontre.
Bonsoir.
Bonsoir. Je suis une grande fan.
Oh, moi aussi.
Bah voilà, c'est de l'admiration mutuelle. Votre spécialiste, c'est l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Comment ça se fait qu'on se retrouve à parler de champignons ? C'est pas des animaux là. On sera d'accord. Vous serez d'accord avec moi pour dire ça ?
Non, c'est pas des animaux, mais c'est lié au règne animal. C'est nos anciens ancêtres, puisqu'on est plus les champignons sont plus proches des animaux que des plantes. Donc c'est pas si loin que ça quand même.
On partagerait 50% de notre ADN avec les champignons, de notre matériel génétique.
C'est exactement ça. Le concombre est beaucoup plus éloigné du cèpe que le poulet.
Ben voilà, je pense que c'est important de retenir cette phrase. Autant dire que pour vous, Marion Montaigne, les travaux de Audrey Dussutour, c'est une mine d'informations. Et il y a d'ailleurs un sujet que vous avez un peu partagé ces derniers temps, c'est celui d'un fameux champignon zombie. Vous y consacrez un épisode dans Tu mourras moins bête. On écoute juste un bout pour qu'on sache de quoi on parle.
Prof, je suis en train de regarder la série The Last of Us. Il paraît que ça existe vraiment des parasites comme ça.
Non, c'est affreux.
The Last of Us raconte un monde apocalyptique où un champignon a zombifié une partie de l'humanité en lui parasitant le cerveau. La série s'inspire d'un vrai champignon, l'Ophiocordyceps unilateralis, qui infeste la petite fourmi charpentière.
Audrey Dussutour, cette histoire de champignons qui peut zombifier la fourmi charpentière, c'est celle qui est aussi à la base de votre livre sur les champignons. Pourquoi c'est intéressant les fourmis zombies, au-delà du fait que ce soit fou?
Ce qui est intéressant, c'est comment un champignon qui n'a pas de système nerveux arrive à court-circuiter le cerveau d'un autre organisme. Donc, dans ce cas-là, c'est la fourmi. Et puis, il y a un côté un petit peu, ce qui est intéressant, c'est le côté monstrueux, puisqu'on voit à un moment donné que la fourmi n'est plus elle-même. On dit souvent que c'est un champignon déguisé en fourmi. On la voit flâner dans l'herbe, on dirait qu'elle est complètement ivre. Et puis, à un moment donné, elle va mordre, s'immobiliser complètement. Et là, on va avoir le champignon qui va sortir de derrière la tête, une espèce de tige horrible comme un alien, qui fait 3 fois la taille de la fourmi et qui va ensuite disperser ses spores sur les fourmis qui se baladent juste en dessous. Donc il y a vraiment un côté monstrueux qui est assez fascinant quand on a... Voilà, c'est ça, exactement.
Marion Montaigne, c'est évidemment ça qui vous a attiré dans cette histoire. C'est le truc un peu dégoûtant.
Non, pas du tout. Non, là, je suis en train de me dire, mince, on ne l'a pas fait vraiment ivre là. Ah si, on l'a fait un peu gay. Mais non, c'est génial, enfin c'est... Non, mais il faut laisser les spécialistes en parler.
Qu'est-ce que ça raconte d'intéressant pour nous, cette fourmi qui devient un zombie avec un parasite qui vient dans son cerveau et puis qui en prend le contrôle ?
Alors, c'était aussi ce livre pour expliquer que ça ne pourrait pas arriver, n'est-ce pas ? N'ayez pas peur. On n'est pas prêt d'être zombifié puisque le Ophiocordyceps, il a mis 45 millions d'années à vraiment se spécialiser sur une fourmi charpentière. Un Ophiocordyceps, par exemple, aux États-Unis, ne peut pas infecter une fourmi qui sera en Thaïlande, par exemple. Il y a vraiment une spécialisation qui se fait.
Ah oui, c'est vraiment des millions d'années de R&D, quoi. Des milliers d'années de développement.
D'ailleurs, dans l'épisode de Marion, on le voit très bien, là. Cette métaphore du champignon qui essaye de comprendre la fourmi, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment une coévolution qui se fait entre l'hôte et son parasite, et ça dure extrêmement longtemps. Et donc, ça ne nous arrivera jamais. Donc, Last of Us n'existera jamais.
D'accord. Audrey Dussutour, dans les informations très peu sourcées qu'il m'arrive de donner pour faire mon intéressante, je dis souvent que l'être vivant le plus grand du monde, c'est un champignon. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est Armillaria, c'est une armillaire couleur de miel, et elle fait la superficie de 1000 stades de foot. C'est quand même pas mal.
C'est vraiment un être vivant.
Ouais, c'est un seul et unique champignon. Et c'est assez incroyable parce qu'on voit les corps fructifères, ce que nous on appelle des champignons quand on va collecter des champignons en forêt, mais ils sont tous connectés par un énorme réseau mycélien sous la forêt.
Et ils communiquent entre ces mille stades de foot.
C'est un seul et même membre.
C'est un seul et même organisme. C'est pour ça que c'est assez fascinant, les champignons, les blobs, etc. C'est des systèmes qui n'ont pas de système nerveux, qui sont complètement distribués et qui font des choses incroyables.
Et les champignons, alors, on doit plutôt s'en méfier ou on doit s'en inspirer ? Pourquoi on manque d'études sur le sujet ?
Oh, parce que les champignons, on les associe souvent aux moisissures ou on parle de cueillette de champignons, mais on oublie vraiment tout l'intérêt des champignons. Il y a un tiers des champignons qui sont là pour décomposer la matière organique. Sinon, on croulerait sous les fesses des animaux, sur les arbres morts, etc. Donc, c'est vraiment des décomposeurs hyper importants. Ils vivent en symbiose avec les plantes. Il y a 90% des plantes qui vivent en symbiose avec des champignons. Les champignons nourrissent un petit peu les plantes indirectement. Et donc, voilà, moi, j'ai choisi de faire un livre sur les parasites parce que ça représente un tiers des champignons. Et on n'en parle pas beaucoup parce que ça fait un petit peu peur. Et ces champignons-là, ils tuent quand même 3 millions d'êtres humains par an.
Quand même. C'est un livre moitié fiction, moitié vulgarisation scientifique. Je le précise pour que les auditeurs aient envie. Marion Montaigne, je vous vois réjouie. Je vous vois réjouie en écoutant Audrey Dussutour. Je vois que vous êtes contente. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez les chercheurs comme Audrey Dussutour, vous ? Pourquoi est-ce que c'est des gens que vous aimez profondément fréquenter ?
Je peux écouter pendant des heures. C'est comme si on me racontait une histoire. Et surtout, ça me sort, de la prétention humaine, on n'est pas grand chose, enfin, et je sais pas, c'est comme si ça me délecte. Je sais pas comment dire. Puis vous voyez, on peut très simplement dire non, la sauveuse, ça n'arrivera pas, et il n'y a pas, grâce à la science, non. Bon, il y aura d'autres choses, mais je trouve ça incroyable. Puis là, un organisme de plusieurs terrain de foot, moi, en tant que dessinatrice, je m'imagine un département se mettre à marcher. Enfin, ça démarre très vite. Ça donne beaucoup d'idées,
d'images
de départ
directement dans la tête. Moi, je me demandais, Audrey Dussutour, quand on fait une découverte comme celle que vous avez faite sur le blob, et je l'ai dit très rapidement, mais vous avez découvert que cet organisme microcellulaire, unicellulaire, vous me dites si je dis des choses fausses, hein, vraiment, sont capables d'apprendre et qu'on sait que ça va faire date, cette découverte. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ?
Alors, au début, on n'y croit pas et on refait l'expérience 4000 fois. Parce que c'est le nombre de blobs qu'on a testé pour démontrer l'apprentissage chez le blob. Parce que clairement, on savait que les neuroscientifiques seraient sceptiques. Hein, parce que jusqu'à présent, on pensait qu'il fallait un système nerveux pour apprendre. Et donc, on fait quand même pas les malins au départ. Et donc, on refait l'expérience plein de fois pour être sûr que ça marche. On demande à des collègues dans d'autres laboratoires de voir si ça marche aussi avant de publier. Et donc, c'est vrai que c'est assez incroyable. Mais quand on connaît les capacités du blob, c'est pas très surprenant. Et puis maintenant, finalement, nous, on a publié en 2016 et depuis, il y a eu plein d'articles scientifiques qui montrent que d'autres organismes unicellulaires peuvent apprendre, des amibes, des petits ciliés qui sont des petits unicellulaires qu'on trouve en forêt. Donc, on voit qu'en fait, ce phénomène d'apprentissage, il existe un petit peu partout, même chez les plantes. Et c'est juste que peut-être on a tendance à se focaliser sur les animaux. Et notre côté aussi anthropocentré, on voit les animaux comme vraiment des êtres supérieurs, ce qui est faux, bien sûr. On coévolue avec toutes ces espèces. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que peut-être les capacités d'apprentissage ont émergé en même temps que la vie.
Et en tout cas, vous avez ouvert donc un champ de recherche, j'ai l'impression. Marion Montaigne, Audrey Dutour, cette émission touche malheureusement à sa fin. J'aimerais votre kit de survie à l'été. C'est une série de questions-recommandations. Vous me donnez des choses à lire, à regarder, à faire quand on n'a plus d'idées, quand on a beaucoup trop chaud. Marion Montaigne, un ouvrage de vulgarisation scientifique qui doit absolument nous ravir et nous mettre dans le même état que vous.
L'Odyssée des fourmis d'Audrey Dutour et d'Antoine Wirtztrack, que j'arrive pas à le dire.
Vous pouvez nous dire son nom correctement, Audrey Dutour, ça nous aidera pour trouver votre livre, L'Odyssée des fourmis.
Antoine Wirtztrack.
Voilà.
Wirtztrack, pardon.
Audrey Dutour, un roman d'été pour arrêter de penser aux champignons et aux fourmis.
Alors, j'ai adoré dernièrement la BD de Jérémy Moreau qui s'appelle Alite, qui est l'histoire d'un petit crapaud. Et c'est magnifique, il faut absolument lire ça.
Alite, petit crapaud. Marion Montaigne, un voyage à faire quand on n'aime vraiment pas voyager.
La sieste.
La sieste, c'est très bien. On voyage au rêve. Audrey Dutour, un truc de fourmi qu'on peut copier pour passer des bonnes vacances loin des embouteillages.
Ben, quand il y a une voie encombrée, il faut prendre la plus longue qui n'est pas encombrée, comme ça découvrir de nouveaux territoires.
Ça, c'est un truc que vous avez vraiment découvert, c'est que les fourmis ne font pas d'embouteillage alors qu'elles sont beaucoup plus que nous.
Exactement.
Oui, à méditer.
Marion Montaigne, un film pour avoir peur, mais pas trop trop quand même.
Under the Skin, le film de...
Under
non,
the
non,
skin.
C'est un roman ou un...
Bah, il est en vous deux. Faites ce que vous voulez.
Le roman est encore plus ouf que le film.
Under the Skin en roman ou en film. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et sur l'appli Radio France, évidemment. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous ce soir pour le Mac de l'été. Marion Montaigne, Tu mourras moins bête, c'est tous les soirs sur Arte à 20h50 pile, hein, parce que ça dure 3 minutes, donc ne loupez pas. Et en replay sur arte.tv, c'est aussi sur YouTube. Et puis le tome 6 est aussi disponible en librairie. Ça se regarde tout seul ou avec un enfant, j'ai testé les deux, ça marche. Et puis si vous savez pas quoi offrir en BD, vraiment lisez Nos mondes perdus, c'est merveilleux. Merci à vous aussi, Audrey Dutour. Votre dernier ouvrage, Les champignons de l'apocalypse, est disponible. Et si les gens veulent parler champignons ou fourmis avec vous, rendez-vous le 24 juillet à Requista dans l'Aveyron ou au Havre du 25 au 27 septembre. Ce sera pour en savoir plus sur le blob cette fois. Je vous souhaite à toutes les deux un joli et un joyeux mois de juillet.
Merci.
J'espère que vous verrez en vrai un jour.
Ben oui, on va y arriver.
Bah, j'espère aussi.
C'était le Mac de l'été avec Marion, Philippe, Tara, Natouri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission. Lucie Lemarchand à la réalisation et à la technique, Guillaume Ficheux.